Le journal de Nicolas Meusy.
Bonsoir. Collecter, trier et recycler le plastique, le commerce de détail et l'industrie alimentaire suisse ont récemment lancé un projet à l'échelle nationale, un travail sur les emballages et notamment en réflexion avec les acteurs de la branche. La Haute École spécialisée de Suisse occidentale face au harcèlement sexuel, la HESSO, a mandaté une enquête publiée aujourd'hui qui fait état d'un quart des étudiants et du personnel ayant subi des remarques sexistes. Maison veut franchir le pas de la zone 30 km/h généralisée, ou presque. La commune entend appliquer la limitation de la vitesse à la quasi-totalité de son territoire. Une démarche pour la sécurité des riverains, souligne le conseil communal. Météo, le temps sera couvert mais sec ce soir et cette nuit. Demain, couvertures nuageuses et brouillards seront de la partie, avec des températures jusqu'à 2 degrés en plaine et 1 degré sur les hauteurs. Un projet de recyclage du plastique est lancé à l'échelle nationale. Les représentants du commerce de détail et de l'industrie alimentaire ont présenté leurs ambitions aujourd'hui à Berne. Ils ont créé l'organisation Recipac pour mettre en place une collecte, un tri et un recyclage des plastiques. Pour l'instant, seule la ville de Berne et quelques communes zurichoises participent. Mais Recipac veut convaincre le plus grand nombre de communes dans toute la Suisse. L'idée est de vendre des sacs spéciaux à la population pour récolter les déchets plastiques, les précisions de la directrice de Recipac, Odile Inawen.
Aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est qu'environ 55% des plastiques qu'on récolte dans un sac peuvent être recyclés. On a l'ambition, avec aussi notre organisation de branche et le travail étroit aussi avec les producteurs d'emballages et les marques, qu'à terme, un plus grand pourcentage de ces plastiques puissent être recyclés. Par exemple, avec des emballages qui sont en monomatériaux, on sait que c'est beaucoup plus facile après pour les recycler. Et ça fait partie de nos objectifs. D'un côté, d'avoir une plus grande quantité d'emballages plastiques recyclés en Suisse et d'améliorer aussi la qualité.
Et en quoi seront recyclés ces plastiques?
Alors là, ça dépend de nouveau des différentes sortes de plastiques. On sait par exemple une partie des emballages comme des barquettes pour les fraises sont en PET. Ça, c'est un matériel qu'on arrive très bien à recycler, qu'on arrive aussi déjà à réutiliser pour des emballages alimentaires. Et d'autres matériaux, par exemple le PS ou comme ça, pourra être utilisé pour faire des tuyaux d'arrosage ou des instruments pour le jardin. Donc il y a différentes possibilités.
Propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier. Greenpeace Suisse est plutôt sceptique face à ce projet. L'ONG regrette que les acteurs de la branche alimentaire décident d'investir dans le recyclage plutôt que dans la mise en place de systèmes réutilisables. Le conseiller fédéral Albert Rösti ne veut pas changer de département pour reprendre la défense. Malgré les critiques de son parti, l'UDC, sur le travail de Viola Amert à la tête du DDPS, le Bernois indique aujourd'hui qu'il se sent bien au département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et qu'il souhaite y poursuivre son travail. La décision de qui dirigera à l'avenir le département fédéral de la défense sera prise lorsque le nouveau membre du conseil fédéral sera élu. L'élection devrait avoir lieu le 12 mars prochain selon les services du Parlement. La Haute École spécialisée de Suisse occidentale renforce ses actions de prévention contre le harcèlement sexuel. Selon les résultats d'une enquête mandatée par la HESSO et réalisée par l'Institut Mistrend, un peu plus d'un quart des étudiants et du personnel a subi des remarques sexistes. Les explications de Damien Piscopiello.
L'enquête a été réalisée auprès de l'ensemble du corps estudiantin et du personnel, soit environ 42 000 personnes. Il en ressort que les cas les plus graves, comme les attouchements, le revenge porn ou encore les tentatives de viol, concernent un peu moins de 4% de ce total. Ce sont les étudiantes qui sont le plus confrontées à des comportements harceleurs. 58 d'entre elles ont été la cible au moins une fois de remarques dégradantes, sifflements, messages non sollicités à nature sexuelle ou encore contacts corporels non désirés. Pour lutter contre ces cas de harcèlement, la HESSO prend ses responsabilités, assure la rectrice Luciana Vaccaro. Cela passera par des formations, de la prévention, de la sensibilisation et un rappel de la politique de tolérance zéro de l'institution face à ces comportements.
La HESSO précise que ses travaux de prévention et de sensibilisation débutent immédiatement et que l'ensemble des mesures prévues se déploieront jusqu'à la rentrée académique 2025. Rosmaison veut passer aux 30 km/h sur quasiment l'ensemble du village. Le conseil communal a publié une réglementation en ce sens dans le journal officiel paru ce jeudi, avec un délai d'opposition fixé à 30 jours. Seule une partie de la route cantonale, soit le secteur entre Delémont et l'intersection qui mène à l'école, resterait à 50 km/h. Environ 40% du territoire communal se trouve déjà en zone de réduction de la vitesse. Le conseiller communal en charge des travaux publics explique pourquoi l'exécutif veut généraliser le 30 km/h à l'Intisso.
La réflexion du conseil communal date de plusieurs années. Et il y a aussi une demande des riverains. Nous avons un réseau routier qui est peu sécurisé. Et avec le 30 à l'heure, avec cette réflexion, nous tendrons à une meilleure sécurité de tous les usagers des rues du village.
Il y a vraiment des problèmes en termes de sécurité ?
Ah oui, il y a des problèmes. Nous avons un déficit notable de trottoirs dans notre village. Il n'y en a pour ainsi dire pas. On a 100 mètres, 150 mètres de trottoirs. Les grands champs avaient été équipés d'un trottoir jaune, donc peint, et il n'a pas donné satisfaction avec des potelets, mais ça n'a pas donné satisfaction. Alors toute cette réflexion est aussi en regard de l'augmentation de notre population et de l'augmentation de la densité de la circulation à l'intérieur du village. Ça, c'est aussi un élément qui est très très important pour nous.
Alain Tissot répondait à François Comte. Le conseil communal de Rosmaison souhaite en parallèle assainir la rue des Grands Champs. Un crédit en ce sens de plus de 2,5 millions de francs sera soumis aux citoyens le 9 février prochain en votation. Les envies pressantes des usagers du train pourront à nouveau être soulagées à Porrentruy. Les CFF publient aujourd'hui dans le journal officiel que l'ancien poste de commande des aiguillages va être transformé en toilette publique. L'ex-régie nous a précisé que les travaux devraient se tenir en avril. Depuis de nombreuses années, les WC se trouvant au sous-sol du bâtiment de la poste avaient été fermés à cause de déprédation. L'absence de toilette publique avait notamment suscité des remarques lors du conseil de ville de Porrentruy. Les autorités municipales se réjouissent qu'une solution ait été trouvée. Le chancelier François Vallet précise que les CFF, comme dans d'autres gares, vont installer un système payant. Il en coûtera un franc pour accéder aux toilettes. Intégrer le monde du travail reste un défi pour de nombreux Ukrainiens bénéficiant d'un statut S. À ce jour, dans le canton du Jura, ils sont 77 à avoir trouvé un emploi, ce qui représente environ 22% des Ukrainiens établis dans le Jura et en âge de travailler. Un chiffre en constante progression malgré les difficultés. Alexandra Mietvieyeva est arrivée dans le Jura en août 2022. Elle travaille dans une entreprise de nettoyage depuis 6 mois, mais dégoter un emploi n'a pas été chose facile pour cette ukrainienne de 30 ans, pourtant qualifiée.
Oui, c'était difficile parce que la première fois que je cherchais du travail, je n'ai pas parlé français, juste anglais, mais anglais ici, c'est rien. Et après, quand j'ai commencé à étudier français, j'ai commencé à chercher du travail encore, mais c'était difficile parce que j'ai envoyé mon CV tout partout, mais pas réponse, ou c'est réponse standard, merci beaucoup pour ton CV, mais il y a les autres candidatures, blablabla. C'est difficile ici. Tu connais quelqu'un, c'est plus facile, parce que les autres personnes, c'est possible de t'aider pour trouver du travail.
C'est d'ailleurs comme ça, vous m'avez dit que vous avez trouvé votre travail actuellement. Vous connaissiez quelqu'un qui a pu du coup vous aider, oui, à vous faire engager, c'est ça?
Oui, oui, oui. C'est ma amie, elle travaille à nettoyage. Mm-hmm. Et elle m'a aidé pour ce travail, parce que toute seule, c'est, pour moi, c'est pas possible.
Propos recueillis par Thomas Nagy, le taux d'Ukrainiens intégrés au marché de l'emploi en Suisse est de quasiment 30%, alors que l'objectif de la Confédération était de 40% pour fin 2024. Elisabeth Baumschneider, de passage dans la cité sélandaise, la conseillère fédérale jurassienne, a visité ce jeudi le centre hospitalier Bienne. L'établissement de santé est considéré comme un pionnier dans le virage de l'ambulatoire. Le CHB occupe de grands espaces vers la gare de Bienne, où il a regroupé les soins ambulatoires dans le centre de santé Médine. Ce n'est donc pas un hasard si la ministre de la Santé s'y est rendue, Elisabeth Baumschneider.
C'est un modèle dans le sens qu'on peut observer comment se développe le centre ici avec différentes spécialisations, avec aussi une dimension sociale. J'ai eu l'occasion aussi de voir ce qui est fait pour les personnes atteintes de diabète, aussi la possibilité de faire des choses groupées, d'avoir des groupes de jeunes qui viennent discuter de la question de leur propre diabète. Donc ça donne aussi aux patientes et aux patients une possibilité d'être acteurs de leur situation et de leur traitement. Et surtout aussi de voir que c'est un concept global, c'est pas Médine ici à la gare et puis un hôpital plus ancien sur le site de Beaumont, c'est véritablement un écosystème qui fonctionne avec une stratégie que les personnes qui doivent être hospitalisées le sont et celles qui peuvent être traitées en ambulatoire le sont, et ça c'est vraiment extrêmement intéressant.
À l'étranger, Israël accuse le Hamas de reculer sur l'accord annoncé la veille pour une trêve à Gaza et la libération des otages. Selon le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le mouvement islamiste palestinien est revenu sur certains points pour extorquer des concessions de dernière minute. Accusation rejetée par un dirigeant du Hamas. Et alors qu'une réunion gouvernementale en Israël est prévue aujourd'hui pour approuver cette issue à la guerre, l'État hébreu a poursuivi ses bombardements sur Gaza. L'Organisation mondiale de la santé a besoin de 1,5 milliard de dollars cette année pour faire face à des dizaines de crises sanitaires dans le monde. Elle a dit aujourd'hui à Genève s'attendre à des situations sans précédent. Au total, 305 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. Les conflits, les épidémies, les désastres liés au climat et d'autres urgences sanitaires ne sont plus isolées ou occasionnelles, a affirmé le directeur général de l'OMS. Aux États-Unis, Facebook et Instagram ont mis fin à la vérification des informations. Le patron de leur maison mère, Meta, Mark Zuckerberg, l'a annoncé la semaine passée. Pour le moment, cette décision ne s'applique qu'aux États-Unis, mais pourrait faire son chemin jusqu'en Europe et en Suisse. Le système de fact-checking introduit en 2016 par les plateformes sera repris par les utilisateurs. Ils devront désormais signaler, contextualiser ou apporter des précisions aux informations diffusées. Pour la directrice de l'Académie du journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel, ce nouveau système est risqué, Nathalie Pinière-Chanel.
Le fact-checking tel qu'il est réalisé par les journalistes, c'est un travail qui peut être assez complexe, qui consiste à retracer la provenance de certaines informations, parfois à vérifier des images. Donc c'est un travail assez méticuleux qui ne sera pas forcément à la portée de tout un chacun. Puis l'autre problème également, c'est qu'il y a quand même un risque possible d'instrumentalisation. On peut imaginer que des groupes politiques, idéologiques se servent de cet outil-là pour pouvoir soit dénigrer l'autre camp, soit pousser leurs propres informations ou leurs propres désinformations.
Nathalie Pinière-Chanel répondait à Cléa Robert.
RFJ, il est 18h13.
Sport. Grosse surprise à Melbourne, le numéro 5 mondial Daniil Medvedev a été éliminé au deuxième tour de l'Open d'Australie de tennis. Le Russe a été sorti aujourd'hui après un match fou en 5-7 face au jeune américain Lerner Tien. 6-3, 7-6, 7-6, 1-6, 7-6 après 4h53 de match. L'athlète de 19 ans affrontera le français Corentin Moutet au prochain tour. Et puis en football, le nouvel entraîneur des Young Boys de Berne, Giorgio Contini, a pris une première mesure forte. Marvin Keller sera le nouveau gardien titulaire d'IB en Super League. Âgé de 22 ans, Marvin Keller pousse ainsi David von Balmos, 30 ans, sur le banc des remplaçants. La reprise du championnat interviendra samedi pour les Bernois contre Winterthur. IB est actuellement 9e du classement, à 8 points du leader Lugano, mais aussi à 8 points du barragiste Grasshopper. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée.